Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'after continue jusqu'à 1h du matin ici en direct du Qatar. Tout à l'heure de minuit à 1h, ce sera la libre antenne de l'after comme tous les soirs pendant la Coupe du Monde. Vous le savez, vous pouvez venir en studio débattre avec Nicolas Villas, avec Thibaut Giangrande de l'actu foot du jour, de la Coupe du Monde principalement, hein, bien sûr, mais pas que quand l'actu concerne autre chose. Elle est là dans la libre antenne également. Ce soir, Daniel Riolo est présent. Salut Daniel.
Salut les amis.
Stéphane Guy est là également. Salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, donc en direct de Doha, de Paris. J'ai deux invités avec moi ici au Qatar. Fouzia, qui est là, qui a un compte Twitter actif, @footeuse, supportrice de l'équipe de France et du PSG. Très bien.
Et de Verratti, qui va bientôt prolonger. C'est une petite dédicace pour Daniel.
Ah.
Voilà. Ah, je suis content de la dédicace, mais alors il y a un petit problème avec l'image, parce que Gilbert, je ne vois que toi et je ne vois pas tes invités.
Ah, sur Twitch, il n'y a que moi ? Bon, on va faire, t'inquiète pas, les plombs.
Ah ouais, il faut qu'on voit mieux tes invités. Alors que toi, tu nous vois. D'ailleurs, tu vois, est-ce que tu vois à quelle place je me suis installé ?
À la mienne.
Eh oui, c'est la première fois que je fais ça.
Ah, mais il prend la confiance, hein, Stéphane, explique-lui.
Non, tu sais, quand on enregistre.
C'est un vieux rêve qu'il devait avoir depuis 15 ans, s'installer dans le.
Non, quand on fait le RMC Poker Show, je me mets là aussi.
Ouais. T'as vu, on voit les choses différemment quand on est là.
Ça s'agit, pareil.
Non, mais sinon, pour la dédicace, je prends. Donc, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom.
Fouzia,
voilà. Oui, il devait reprendre l'entraînement aujourd'hui, ton ami Marco Verratti, mais finalement, il était à Saint-Barth encore sur la plage. Il rentrera avec un jour de retard, c'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Il a été aperçu à un resto de plage. Bon, un jour de retard, c'est rien.
Faut qu'il récupère, comme d'habitude.
Ouais, faut qu'il récupère.
Et puis Guillaume est là également, lui aussi supporter des Bleus, qui est venu en début de Coupe du Monde. Guillaume, toujours avec son maillot de Strasbourg.
Ah, j'espère qu'il l'a lavé entre-temps quand même, ce maillot.
Ben non.
Il a été lavé, Daniel, spécialement, mais je n'ai pas la chance qu'on soit l'un en face de l'autre ce soir. Mais oui, il est tout beau, même si maintenant il n'y a plus de Strasbourgeois dans cette Coupe du Monde. Hein, nos deux représentants sont rentrés pour le club. Et puis, ils sont partis préparer le match du 28 décembre.
Du coup, il n'a pas trop joué avec le Ghana.
Non, Kawashima non plus. Hein.
Kawashima, il joue nulle part. Il joue pas avec Strasbourg, il joue pas avec le Japon, lui.
Mais ils vont préparer le match du 28 décembre au Parc des Princes.
Exactement.
Avec Verratti.
Ah d'accord, ça va être un monothème alors, Fouzia, Verratti.
Non, c'était une dédicace. D'accord. J'arrête après.
Au programme, jusqu'à minuit, on va parler du nouveau Adrien Rabiot dans quelques instants. On va parler de l'Angleterre. Julien Laurence nous rejoint dans quelques minutes. Il estime que les Anglais ont tout pour éliminer la France. Tout à l'heure, après 23h, Nasser Larguet sera avec nous. On est ravis. Il a été DTN du Maroc pendant plusieurs années. Donc il est très bien placé pour nous parler du foot marocain et pour nous expliquer, essayer de comprendre la performance du Maroc. Hier, vous avez beaucoup parlé. J'étais pas là hier, mais j'ai vu les réactions. J'ai entendu l'analyse du match. D'ailleurs, j'étais au match et j'étais d'accord avec ce qui s'est dit dans l'after hier soir. On aura l'occasion d'y revenir avec Nasser Larguet tout à l'heure. Et puis, les échecs allemands et espagnols qui font débat. Paulo Breitner et Fred Hermel seront avec nous, sans oublier un avis développé par Daniel tout à l'heure qui va parler de ces équipes qui jouent sans numéro 9. Ce sera à 23h, plus l'actu du jour, au sein de laquelle on pourra parler de Marco Verratti qui va donc prolonger et qui peut-être va battre tous les records de longévité au PSG. On en parlera tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert pour tous ces débats, direct studio sur nos applis RMC, RMC Sport. Vous connaissez le principe. Vous pouvez télécharger les podcasts en qualité optimale. Podcast que nous réorganisons en ce moment. Il y avait quelques petits soucis ces derniers jours, mais sachez que les podcasts.
Ah oui, il y a eu beaucoup de plaintes, hein, Gilbert. Il faut qu'on soit raccord parce que je veux bien qu'on soit numéro 1, mais il faut qu'on soit nickel. Il faut que nos auditeurs soient contents.
Et pour être tout à fait transparent, on a eu une longue réunion cet après-midi pour réorganiser la mise en ligne des podcasts. Donc normalement, les choses devraient s'améliorer normalement dès demain, parce qu'on est réactif.
Voilà.
Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le hashtag RMC Live est là aussi. Alors, Rabiot, on y va.
Après leur petite journée de pause hier, ils se sont remis à bosser.
Les podcasts, si vous voulez rester numéro 1, si on veut, parce que je participe maintenant de l'affaire, rester numéro 1, ça se joue au jour le jour, si j'ai bien compris.
Et parce que Gilbert, il rigole pas avec ça. Autant moi, dès qu'il y a de l'orga et tout, je suis toujours un peu largué. Mais Gilbert, il est carré et il s'énerve. On prend les mails, ils circulent dans ces cas-là.
Bah ouais, attends, faut,
c'est normal, c'est normal.
Non, mais Stéphane Guy, numéro 1 des commentateurs et maintenant numéro 1 des podcasts. Oh, c'est extraordinaire. Bon, quelle carrière.
Non, je t'ai plus. Je vais finir ambassadeur au Qatar.
Bon.
Alors, des années de bonheur en plus.
Voilà. Ça vous fait quoi d'être avec Stéphane Guy Stéphane Guy, ça représente un truc quand même, non? Fouzia et Guillaume.
C'est le commentateur que j'aime bien charrier et détester et pester contre lui. Mais je lui envoie mon amitié pour ce qui s'est passé. Il a été courageux et donc je trouve dommage qu'il ait été sanctionné de la sorte.
Merci Fouzia, c'est très gentil.
Mes amitiés.
Le courage a peu de prix dans notre pays, tu sais. On est vite courageux malheureusement.
Donc.
Mais en même temps, il a découvert l'after, Fouzia. Ça change une vie, tu sais.
C'est vrai. C'est vrai. Il faut toujours chercher à quoi malheur est bon. À quoi malheur est bon, exactement.
Alors, je disais le nouveau Rabiot parce que vous avez sans doute déjà vu, vous qui nous écoutez, ou entendu quelques-unes de ses déclarations du jour. Bon, alors sur le terrain, globalement, on n'a pas grand-chose à lui reprocher depuis le début de la compétition. Et là, il s'est exprimé aujourd'hui.
C'est une litote, Gilbert, tu veux dire?
C'est-à-dire?
Bah, ça veut dire qu'il est tout juste avec Mbappé, le meilleur français de la Coupe du Monde pour l'instant, avec Griezmann.
Il est dans le top 3 des meilleurs français?
Ah oui. Enfin, oui. Moi, je le trouve.
Mbappé, Griezmann et lui?
Absolument épatant. Ah oui. Ah, je l'ai trouvé énorme contre le dernier match, là.
Ah, vous mettez Giroud dans le top 3, vous?
Ah oui.
Dans le top 3, non, mais dans ceux qui sortent, Griezmann, oui. Clairement, Rabiot. À contre-cœur.
Pourquoi à contre-cœur?
Parce que la Parisienne que je suis a gardé une dent contre lui. Mais la
pourquoi une dent? C'est la façon dont il est parti?
La façon dont il est parti, son comportement.
Bah, la façon dont il se comportait et le niveau de jeu qu'il affichait les dernières années, surtout.
Il y a ça. Et justement, en fait, ce qui est encore plus frustrant, parce que lui, il a été titillé, il nous a vendu le « je veux être le Steven Gerrard du PSG », etc. Et de voir, en fait, qu'à la Juve, puisque moi, je suis la Serie A, de voir que là-bas, il a eu une discipline, il s'est investi.
Exactement.
Il a essayé de changer des choses. Et il l'a fait, lui, parce que c'est pas que l'institution, c'est que lui, il s'est mis dans une situation où il a voulu évoluer et il s'est mis à disposition du groupe. Il a arrêté de parler de son positionnement « je veux là, je veux pas là », etc. Et il est passé à côté de ça à Paris, au moment où le Paris en avait le plus besoin, n'avait plus assez de milieu. On a fait un match, je crois qu'avec des Lo Celso, etc., sans milieu de formation. Et je me dis, il avait cette place-là, ça me reste en travers de la gorge.
Bien sûr.
Revanche, là, cette saison, moi qui regarde la Juve, par exemple, je le trouve justement transformé. Il avait déjà commencé les autres années, il a bénéficié au tout début.
Johan Crochet n'a pas été non plus 10 tirs en bique sur son début de saison, à Rabiot sur ses 6 premiers mois.
Parce qu'il est dans une Juve qui est en difficulté. Donc, comme elle est en difficulté, tu vas essayer de regarder qui est le moins en difficulté. Donc, sans dire qu'il est exceptionnel, tu sens qu'il est un peu plus stable, un peu plus, on va dire, régulier que je l'ai vu au PSG. Et il en a parlé récemment, il disait, ben justement, j'ai l'impression qu'avec mon physique, en ayant travaillé mon physique, en étant plus concentré, je m'occupe moins de mon positionnement, etc., je m'occupe de ça. Et maintenant, je peux performer et mieux performer sur la régularité, sur la durée.
Et puis, on n'entend plus Véronique Rabiot. Enfin, on n'entend plus parler d'elle, en tout cas. Alors qu'avant, au PSG, on a l'impression qu'elle était dans l'actualité quasiment tous les mois. Il y avait un truc, quoi.
On est un peu dur avec elle. Mais c'est la femme que je suis. Et je trouve qu'on est un peu plus dur avec elle parce que c'est une maman et c'est un agent à la fois. Il n'avait pas son papa. Elle a fait des choses. On peut la charrier un peu quand on est supporter, mais quand on prend un peu de recul, je pense qu'il faut aussi respecter le fait que il n'y a pas mieux qu'une maman pour essayer de prendre soin. Et je crois qu'on a donné trop d'importance.
Il y a peut-être mieux qu'une maman pour négocier des contrats, pour avoir une vision lucide sur ce qu'est son fils. C'est discutable.
C'est possible.
Hein.
Mais par contre, la volonté de l'altruisme de sa position, le fait que on est quasiment sûr que ce sera pour le bien. Ça peut être erroné, ça peut être une mauvaise décision, mais ce sera toujours motivé par autre chose que l'argent. Voilà, et c'est ça qui fait la différence.
Non, c'est pas vrai, Fouzia, ce que tu dis est pas vrai. Franchement, c'est un dossier que je connais très très bien. Je pensais pas qu'on allait parler de ça en plus. Je pensais qu'on allait parler de plus de lui et de ce qu'il fait sur le terrain. Mais mon avis à ce sujet est très partagé parce que le drame familial qu'a connu la famille Rabiot, c'est quelque chose qui forcément fait baisser la tête et aurait dû.
La maladie et la disparition.
Oui,
du
non,
père.
C'est franchement, c'est un vrai drame familial. C'est quelque chose de très très dur ce qu'a vécu cette famille. Donc ça, c'est une première chose qui fait qu'on est obligé d'avoir de l'indulgence pour la réaction des gens quand on a été face à ce genre de problème-là. Après, la maman, elle était pas obligée d'être sans arrêt aussi véhémente et dire que l'argent n'a pas compté ou n'a pas été un moteur, c'est pas vrai.
Ils ont. J'ai pas dit ça. J'ai dit que l'intérêt numéro un d'une maman, c'est le bien-être de son enfant.
Ouais, mais ça veut pas dire qu'elle va renoncer à l'argent. Je ne sais pas. Faut dire, en l'occurrence, en voulant bien faire, le problème c'est que vouloir bien faire parfois, ça n'est pas bien faire. Et je ne doute pas qu'elle ait voulu bien faire. Et si lui, il en avait besoin de sa maman et si c'est en elle qu'il avait confiance, je respecte tout à fait ça. Maintenant qu'elle ait commis des erreurs, qu'elle se soit mal comportée, et je dis pas ça parce qu'elle m'a fait un procès inutile, qu'elle a bêtement perdu parce qu'elle avait aucune possibilité de gagner, et c'était absurde parce que j'ai juste fait mon métier en racontant quelque chose qui était vrai. Donc moi j'en veux même pas aux gens. Rabiot, ça m'empêchera pas de dire à chaque fois qu'il fera un bon match et je lui tiendrai jamais rigueur de ça. Mais elle l'a mis dans la panade. Elle l'a mis dans la panade en essayant d'influencer des journalistes, en faisant changer des articles, en menaçant que le fils ne donne plus d'interviews si on n'écrivait pas ça ou ça. Elle est vouloir bien faire, parce que je ne doute pas qu'elle ait voulu bien faire pour le protéger, toujours, ça j'en suis sûr. Mais parfois elle dépasse les bornes.
C'est un métier, la communication.
Bah oui, mais l'attitude à l'euro, l'attitude qui a d'ailleurs débouché sur le fameux procès dont je parlais, de péter un câble comme elle l'a fait en tribune, à s'énerver sur tout le monde. Enfin, ok, bon, elle a le droit d'être dans le débordement, dans la passion, pourquoi pas. Mais après, ne pas le reconnaître ou ne pas s'excuser et aller jusqu'à faire un procès bêtement pour ça, alors qu'on a juste raconté avec des preuves et des témoins en plus ce qui s'était passé, elle n'était pas obligée. Donc,
non, mais je pense que
je ne doute pas de
si
son.
Si je peux, Daniel, oui. Au-delà de ton procès, au-delà de la situation qui, pour moi, matérialise plus le rapport avec les médias et cette difficulté à trouver une façon de contrecarrer ce qui peut être négatif pour son fils, un environnement. Donc, c'est un métier, la communication, ça, c'est ses choix de, on va dire, le rapport avec les médias. Donc, ça pourrait être une maman, ça pourrait être un chargé de com, c'est la même chose. Moi, je parlais plutôt des choix de carrière. Et c'est là où on a dit, moi, je pense qu'on sous-estime la part de responsabilité de Rabiot dans les choix et le fait qu'on l'a présenté comme, je pense qu'on présente beaucoup de football comme les petits toutous à maman, les petits qui suivent, et qu'on sous-estime sa volonté à lui. Et c'est ça, moi, qui va me déranger. C'est pas tant est-ce qu'elle a fait un. Voilà, c'est mal.
Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire.
T'as eu un différent avec toi. Moi, c'est sur la partie foot, on l'a accusé de vouloir orienter. C'est pour ça que moi, là, je suis pas d'accord avec toi sur l'aspect argent. Évidemment que quand tu négocies, même nous, au niveau lambda, on négocie nos salaires. C'est pas parce qu'on n'est pas intéressé que par l'argent qu'on est obligé de renoncer à nos droits, au prix du marché, etc. Donc sur cette partie-là, on peut discuter sa façon de faire, sa façon de négocier. Moi, je parlais plutôt, je trouve qu'on lui a mis, et j'ai vu ce qu'avait fait Rabiot, par exemple, quand il avait refusé d'être réserviste. Moi, je reste persuadée que c'est sa décision à lui. Je ne crois pas que ce soit elle qui lui dise.
Non,
c'est
des choix.
Voilà, je ne pense pas que ce soit elle qui choisisse la Juve.
Ça probablement, mais Fouzia,
c'est présenté comme... C'est elle qui faisait tout ça, c'est elle qui... Et je ne crois pas, je crois que ça...
Ah si, son rôle est très important, son rôle est très important.
Évidemment.
Au PSG, elle a mis une pression constante à téléphoner sans arrêt à tous les entraîneurs, à tous les directeurs sportifs, pour dire, il faut qu'il joue là, il faut pas qu'il joue là, à s'immiscer dans les choix, et pourquoi il joue pas plus. Le PSG a fait partir Matuidi en le poussant dehors pour libérer la place pour Rabiot. Lui, il n'en a pas profité parce qu'il se donnait pas à fond, alors que... On sait très bien, dès le départ, on a su qu'il avait des qualités et qu'il pouvait s'imposer dans un grand club. Mais il n'a pas toujours bien exploité ça. Et comme beaucoup, c'est en partant à l'étranger qu'il est rentré dans l'exigence. Tant mieux pour l'équipe de France aujourd'hui. Même avec Deschamps, ça s'est pas bien passé. D'ailleurs, dans sa conf aujourd'hui, il a fait le point là-dessus en disant pendant 2 ans, on s'est pas parlé. Pour un potentiel international, ne pas parler à son sélectionneur pendant 2 ans, c'est quand même quelque chose qui est pas anodin.
Bon. Mais finalement, Daniel, Petite question. Au final, le résultat, il est plutôt positif. Puisque là, le sujet de départ, c'était quand même la question. C'était de savoir, est-ce que aujourd'hui, ce nouveau rôle que prend Rabiot en équipe de France, et là, vous retracez tout cet historique de ce qui a amené à finalement, aujourd'hui, quelqu'un.
La construction d'un joueur.
Bien sûr, mais que
c'est le chemin de construction.
C'est peut-être un mal pour Rabiot. Stéphane.
Non, je dis c'est le chemin de construction. On a toujours un peu cette idée, comme pour les entraîneurs d'ailleurs. C'est on veut qu'un entraîneur il commence son parcours et puis que il aille de succès en succès, de promotion en promotion. Mais la vie c'est pas ça. Et la vie d'un entraîneur et la vie de Rabiot c'est pas ça. C'est que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments durs, il y a des moments où il est à la faute, il y a des moments où il est dans le vrai, etc. Moi ce qui me réjouit en cette Coupe du Monde c'est que depuis que je vois ce joueur, depuis très longtemps, je me dis, mais c'est un joueur hors norme, Rabiot. Il a tout. Il a absolument tout. Et on n'en voyait pas la concrétisation continue sur le terrain. Et là, on est dans un moment où on se dit, ça y est, c'est ce garçon-là a trouvé sa voie. Et oui, pense qu'il a eu des moments dans sa carrière aussi. Et moi, j'ai aimé ça, où il a pris les choses en main. Il s'est opposé, notamment à un conflit avec un club. C'est très dur pour un joueur, surtout quand le club s'appelle le Paris Saint-Germain. Et il a fait preuve d'un caractère qui témoigne quand même, moi je ne le connais, j'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec lui, donc je ne le connais pas, mais qui témoigne de ce qu'il est intrinsèquement au-delà de la relation avec la maman.
Oui, mais tu vois, il y a une évolution en parallèle à ce qu'on fait sur le terrain, c'est celle du rapport à l'extérieur et aux gens à travers les médias. Et aujourd'hui, bon, c'est entretenu depuis pas mal d'années, tu me diras Stéphane, et tu le sais aussi bien que nous par les joueurs, cette conviction que des journalistes ou que les gens vont leur en vouloir. Dans sa conf aujourd'hui, un des propos principaux qu'il a tenu, c'est les journalistes, vous avez été les plus durs à convaincre, ou vous avez, comme s'il y a sans arrêt besoin, mais en fait, ils ne veulent pas comprendre que jamais de la vie, ni toi, ni moi, ni Gilbert, ni personne, à quel joueur on en veut. On n'en veut à personne, nous.
Non, mais il y a des effets de meute quand même dans nos métiers, Daniel, tu sais. Il y a des effets de meute. Il y a des choses qui sont un peu répétées, oui, malheureusement, en boucle. Et Rabiot a quand même.
Nous on n'est pas là. Nous, on n'est pas là.
Stéphane, Daniel, on va l'entendre dans quelques instants, Adrien Rabiot, justement parler de ça. Et on continue le débat pendant quelques minutes encore, puisqu'on a le temps de le faire ce soir avant le match de samedi où il sera titulaire. C'est une certitude. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'after. Et puis, l'Angleterre est également au programme dans la demi-heure qui vient avec Julien Laurence qui va nous expliquer pourquoi, selon lui, les Anglais vont gagner samedi soir. À tout de suite.
After Foot, intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilles Brivois.
Jusqu'à 1h du matin, l'after continue. Il est 22h19 en France, minuit 19 ici au Qatar. Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, et avec moi en studio Guillaume et Fouzia, supporter de l'équipe de France, présent. Rabiot toujours au programme. On va l'écouter. Daniel parlait de cet extrait où il parlait de sa relation aux médias, et donc relation aux supporters, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est ça quand même qui est en jeu, parce que les médias ne sont que qu'un intermédiaire au fond entre les acteurs du foot et les supporters. Écoutez ce qu'il dit.
Je dirais pas qu'il me touche, mais je dirais des journalistes, parce que vous êtes assez difficile à convaincre. Comme je disais tout à l'heure, j'ai très souvent été critiqué, parfois à tort selon moi. De ce côté-là, c'est une belle reconnaissance. Qu'est-ce qui a été faux ? J'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu sur la qualité de mon jeu ou de mes prestations qui étaient jugées peut-être pas bonnes ou moins bonnes. Même si je suis assez objectif avec moi-même, mais j'ai trouvé que parfois c'était assez sévère. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui me pousse à donner plus et à essayer de mettre tout le monde d'accord à ce sujet-là.
Bon, rappelons quand même qu'il bénéficie de circonstances. Est-ce que la Coupe du Monde de Rabiot aurait été une Coupe du Monde sur le terrain avec Pogba et N'Golo Kanté?
Ah bah tout ça, peu importe. À partir du moment où il est là, il profite, il prend la place, il est bon, tant mieux pour lui.
Ouais, l'une des grosses interrogations qu'on avait, c'est est-ce que lui va être à la hauteur?
Bah oui.
On parle pas depuis le début, quand même, quasiment pas, quasiment jamais dans aucun de nos débats, de l'absence de Benzema, de l'absence de Pogba, de l'absence de Kanté, etc. Ça veut dire que les mecs qui sont là font pour l'instant. Hein, ça peut être le gros sujet à partir de dimanche ou de lundi, mais en tous les cas, pour l'instant, ils font le boulot et Rabiot au premier rang d'entre.
Mais en fait, ça peut pas devenir un sujet, Stéphane, parce que tu te fais battre par l'Angleterre. Qui te dit que si Pogba avait été là ou Kanté, ça aurait été mieux? En fait, on peut pas trop savoir. L'aventure, elle se fait avec les hommes qui sont là. Il aura fait jusque-là une bonne Coupe du Monde. Si on lui voit des limites contre l'Angleterre, on le dira. Ce que je voulais dire tout à l'heure, il a raison. Moi, je trouve que c'est très intéressant qu'il porte un jugement sur ce qu'on fait. C'est bien. On porte un jugement sur ce qu'il fait. Il a le droit de porter un jugement sur ce qu'on fait. Et s'il trouve qu'on a été parfois sévère, eh bien, il a le droit de le penser. Maintenant, c'est marrant parce que je vais faire un débat par média interposé, mais comme c'est un ami et pratiquement un enfant à nous, il m'en voudra pas de le citer. Mais Momo, notre Momo à nous, sur l'antenne, maintenant il bosse sur RTL, il fait avant-hier matin une sorte de mea culpa parce qu'il lui est arrivé de critiquer Rabiot en disant, je crois qu'il dit je m'excuse Rabiot machin. S'il était là, donc Momo, je lui dis mais Momo, de quoi tu t'excuses en fait? Parce qu'à un moment, c'est à partir du moment où tu es sincère et que la critique que tu émets, elle est sincère parce que tu trouves, toi, avec ton expérience, ton travail, que son match n'a pas été bon ou que jusque-là, ce qu'il a fait ne t'a pas convaincu que c'était un chapeau 1 des milieux de terrain. Tu l'as dit sincèrement, tu n'as pas menti, tu n'as pas inventé. C'est ton avis, tu n'as pas été excusé.
Mais il y a deux Wally, éléments.
Dans une formule aussi banale que juste quand il fait beau, il fait beau, quand il pleut, il pleut.
Mais il y a deux éléments dans la carrière d'un joueur de foot, tu le sais bien, c'est le terrain. Et là, le terrain, tout le monde a accès au terrain. C'est-à-dire qu'on les voit jouer, on a un avis sur la performance sur le terrain. Et puis, dans la carrière de Rabiot, il y a le hors-terrain. Il y a eu beaucoup d'événements hors-terrain. Et là, par contre, le sérieux, le travail, le regard, les influences que les uns et les autres subissent orientent beaucoup les commentaires. Autant sur le terrain, on voit les matchs. Après, chacun a ses avis, mais c'est une matière qui est assez indiscutable. Le hors-terrain, il y a eu beaucoup de hors-terrain pour Rabiot, notamment. Moi, par exemple, pendant son conflit avec le Paris Saint-Germain, l'idée que j'en ai, j'ai plus tellement tous les éléments en tête parce que la vie passe, mais moi, je l'ai plus vu comme un résistant qu'autre chose. Et toi, d'après ce que je comprends là, toi, tu penses plutôt qu'il s'est mal comporté par rapport au club. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait preuve, au contraire, dans un système, un football circus, comme je l'appelle, qui tend à broyer les individus, qui tend à les soumettre en permanence à la norme. J'ai trouvé qu'au moins, de ce point de vue-là, un peu comme Ben Arfa pour d'autres raisons, il avait montré qui il était.
Non, là, pour le coup, je trouve que le PSG a fait vraiment beaucoup pour lui. Et je le dis, en plus, ils ont poussé dehors Matuidi. Ils voulaient vraiment lui faire de la place, le mettre comme un enfant du club, et il n'a pas été à la hauteur à ce moment-là. Et comme souvent, et malheureusement, quand ces joueurs français formés dans les clubs français partent à l'étranger, leur carrière change.
Oui, c'est vrai.
C'est
différent.
Et ils sont dans une autre forme d'exigence, alors que très sincèrement, aujourd'hui, la Juve n'est pas un plus grand club que le PSG.
Non.
La Juve a été une institution très forte, elle ne l'est plus aujourd'hui.
En fait, ça, chaque fois, cette constatation de « il part à l'étranger », mais en fait, ça s'appelle la maturité, en vrai. C'est-à-dire que tu sors de ton contexte, tu sors de ton chez-toi, de ton premier club ou quoi, tu pars, bah, t'es obligé de t'adapter, t'es obligé de grandir. En fait, c'est juste normal.
Je trouve pas, si je peux me permettre, par rapport à la France...
Gilbert, excuse-moi, mais les Allemands et les Anglais, ils sont pas obligés de partir à l'étranger, ou les Espagnols, pour mûrir. Pourquoi, nous, les Français, il faut forcément partir? Je comprends pas l'idée, en fait.
Non, mais c'est un constat. C'est-à-dire,
le constat, pourquoi le jeune Allemand, s'il a 20 ans au Bayern, il respecte les règles et il ferme sa gueule.
Il rentre, c'est plus le même. Tu vois ?
Pardon ?
Non, mais je te prends le déracinement, en fait. C'est le déracinement qui te fait grandir. Évidemment, tu peux pas comparer avec un Espagnol qui reste lui toute sa vie.
Pourquoi pas ? Moi, je te redis, pourquoi les mecs, sans bouger, ils arrivent à grandir ? Et pourquoi nous, faut partir pour grandir ?
Moi, je suis d'accord avec Daniel, c'est qu'on voit ça ailleurs. On voit des gens qui commencent l'exigence dès qu'ils atteignent le niveau pro ou qui sont intégrés à des groupes pro. On peut le voir en Italie, en Espagne ou ailleurs. Et il y a cette exigence, même s'ils sont pas au niveau, cette exigence dès le départ. Nous, on a l'impression qu'en France, pour beaucoup, et parce qu'on a beaucoup de talents, que cette exigence, et c'est là où je rejoins pas trop Stéphane, cette exigence, ils l'avaient pas, et cette ouverture à progresser quand t'as des talents qui arrivent de l'extérieur, des Ibra, ils se plaignaient d'un Ibra, ils se plaignaient de certains joueurs qui peuvent apporter justement cette culture de l'étranger. Lui, il s'en plaignait, il se disait oh non, mais moi, machin, un jour j'ai chaud, un jour j'ai froid. Et du coup, là, c'est là où je rejoins pas Stéphane, c'est que Stéphane disait il se rebelle contre, il parle, mais en fait, quand il arrive à la Juve, justement, il a fait le contraire. Donc, on peut pas lui.
Ouais, mais peut-être que.
Voilà, on peut pas le valoriser dans un cas et dire que derrière, il s'exécute et qu'il perd toute personnalité à la Juve. C'est pas le cas.
Peut-être qu'il y a un endroit où il sent qu'il y a une institution forte et indiscutable. Ouais, et puis il y a un endroit où il pense que l'institution, elle est aussi beaucoup question de lien que t'as avec un tel ou un tel, bref, c'est un vaste débat. Puis moi, j'ai pas, encore une fois, j'ai pas vraiment le souvenir de toutes les circonstances du PSG avec Rabiot.
Avançons, parce que je vais vous faire écouter un autre extrait de sa conférence de presse. Il parle du milieu de terrain des Bleus et de la confrontation avec le milieu de terrain anglais. Ça va être un des sujets récurrents d'ici à samedi. Écoutez ce que Adrien Rabiot a dit là-dessus aujourd'hui.
Je pense que c'est une équipe qui a finalement un peu les mêmes caractéristiques que nous. Ils ont des joueurs très rapides sur les côtés, ils peuvent avoir des latéraux assez offensifs, des milieux de terrain qui peuvent se projeter. Je pense qu'ils vont aussi être très prudents parce qu'on a la possibilité de les mettre en difficulté. Je pense que ce sera un match ouvert. Ce qui peut faire la différence aussi, surtout sur des matchs aussi importants, c'est les coups de pied arrêtés. On a des armes aussi, mais faudra être vigilant pour pas faire les erreurs qu'on a pu faire, par exemple contre le Danemark, sur corner ou sur coup franc, où ils peuvent être très dangereux.
Bon, voilà son analyse de l'adversaire dont on va parler avec Julien Laurence dans quelques minutes.
Mais cette analyse, toi Gilbert, c'est ouais. Intéressant quand même, parce que c'est pas une analyse lambda, banale, c'est une analyse d'un mec, on sent que c'est un mec intelligent, quoi, voilà. Y compris dans une analyse comme ça, banale d'avant-match, quoi. Je veux dire, c'est intéressant ce qu'il nous dit là.
Bien sûr, c'est très intéressant.
Il y a plein d'éléments sur lesquels on pourrait, tu vois, on pourrait partir là 10-15 minutes en débat uniquement à partir de ce qu'il vient de nous dire.
Et puis ça veut aussi dire qu'on a déjà étudié de près l'Angleterre dans le camp français, en fait.
Je pense que les Français, comme les Anglais, nous, on n'est peut-être pas projetés là-dedans autant qu'eux, mais eux avaient quand même dans l'idée qu'ils allaient se retrouver en quart de finale.
Dans un instant, justement, Julien Laurence, pour parler de l'Angleterre, on reste ensemble, évidemment, à Doha, à Paris, dans l'after, il y aura également l'Allemagne, l'Espagne au programme, et le Maroc, qui donc est en quart de finale, ce qui pour une équipe africaine est toujours rare, et donc à analyser ensemble dans quelques minutes. Nasser Larguet sera avec nous, ancien DTN du Maroc, c'est lui hein, également qui a été, rappelez-vous, de façon... très partiel, enfin très éphémère sur le banc de l'OM, rappelez-vous, il y a quelques mois. On se retrouve dans quelques minutes. Donc pour l'Angleterre.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
22h32 à Paris, minuit 32 à Doha. On est là, Daniel Riolo, Stéphane Guy est là, et donc deux supporters de l'équipe de France dans notre studio du Qatar, Fouzia et Guillaume qui sont là. Ils sont venus accompagner. D'ailleurs, Guillaume, t'es venu avec des potes là. Vous traînez tous en bande en fait ici au Qatar entre supporters français.
Ouais, c'est ça. Ouais, on fait des belles rencontres de gens qui sont là de toute la France et voilà.
Et qu'est-ce que tu fous toute la journée? Ça fait deux semaines que t'es là-bas déjà.
Eh ben écoute, depuis hier, on a enfin commencé les visites, puisque.
Qu'est-ce que t'as fait jusque là?
Les matchs et puis beaucoup de soirées, de fêtes. Donc
j'ai vu la tronche qu'ils ont. Ils dorment pas beaucoup, je crois.
Ouais, c'est ça. En fait, déjà les matinées n'existent pas depuis 15 jours. Ouais. Donc les journées commencent en général entre midi et 15h.
Très bien. C'est le rythme qatari en fait.
C'est exactement ça, ouais.
Foot corner, j'ai oublié de faire l'annonce tout à l'heure, je la fais maintenant, vous le savez, on vous offre des maillots de foot tous les soirs dans l'after, ce soir un maillot du Maroc. Si vous voulez gagner ce maillot, vous envoyez foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16. Polo Breitner est-il parmi nous? Polo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Voilà, Polo c'est le gars qui est à l'heure, c'est les Allemands, c'est
bonsoir,
carré.
Bonsoir Polo.
Voilà, parce que ah, même en avance, parce que Julien Laurence, il devait être là, mais on l'attend, il arrivera tout à l'heure, donc on fera l'Angleterre un peu plus tard. Mais on voulait faire de l'Allemagne aussi parce qu'il y a pas mal d'infos qui sortent concernant Hansi Flick aujourd'hui. Polo, il faut qu'on fasse le point avec toi.
C'est très compliqué.
Alors oui, c'est pas très clair en fait. Parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il va rester, mais bon, il y a débat. Donc je sais pas, raconte-nous ce qui se passe là après cette déroute allemande.
Alors, il y a plusieurs choses. Si je vous fais un panel global, vous avez une fédération qui est en crise depuis 2015, et notamment depuis la révélation du Spiegel sur un fonds qui aurait permis d'alimenter, un fonds qui est à peu près 10 millions d'euros, 10 millions de francs suisses à l'époque, pour alimenter notamment l'achat de la Coupe du Monde 2006, donc le fameux compte d'été. Était juste un mythe et devient une légende urbaine en Allemagne. Donc il y a énormément de problèmes au sein de la fédération. Vous avez quatre présidents qui se succèdent depuis 2019. Vous avez une ligue qui est en crise aussi, puisque Madame Hoffen n'a pas eu vu son contrat arrêté après moins d'un an, et donc on a un duo qui a pris la place, et donc on a le sportif où se mêle beaucoup de politique qui a fait 2018 dramatique, un Euro 2021 dramatique, et une une Coupe du Monde ratée en 2022. Donc l'ensemble du football allemand ne va pas bien. Je rajoute que la fédération a sorti des chiffres comptables dramatiques en 2021 avec 31 millions de pertes d'euros. Donc tout ça fait que, si tu veux, que c'est en train d'exploser dans tous les sens. Et à la rigueur, le fait qu'Hansi Flick reste à la tête de la Nationalmannschaft...
Puisqu'aujourd'hui, il a été officiellement maintenu.
Alors, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, puisqu'il y avait depuis plusieurs jours, en fait, on voulait absolument la tête d'Oliver Bierhoff, qui était en place depuis 18 ans. Ils l'ont eu. Hansi Flick a fait une phrase... Enfin, en fait, le grand gagnant de la journée, c'est Hansi Flick. Il avait fait une phrase qui était que j'avais entendue, et c'est pour ça que je m'étais permis de t'envoyer un petit SMS en pensant qu'Hansi Flick allait démissionner, ou tout du moins allait négocier son départ, en disant qu'il ne voyait personne en ce moment capable de remplacer Oliver Bierhoff. Donc c'est sympa, celui qui prendra la place d'Oliver Bierhoff dans quelques mois. La grande leçon, en fait, d'aujourd'hui à la Fédération, après une crise, comme on dit, qui a duré 2 heures et des discussions, c'est que Hansi Flick va rester pour faire jusqu'à la fin de son contrat en 2024 avec à la tête de la sélection allemande, et que celui...
Donc avec l'euro en Allemagne, il faut le rappeler.
Si avec l'euro en Allemagne, et en fait, les Allemands sont très pris par le temps. C'est ça, en fait, la véritable leçon, et ça prouve une fois de plus que les Allemands...
Est-ce qu'il y a un remplaçant naturel qui aurait pu s'imposer, enfin, tu vois,
l'histoire de l'homme, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a différentes personnes en Allemagne, dont Didier Hamann, qui appelait à avoir enfin un sélectionneur étranger à la tête de la sélection allemande, ce qui est complètement fou.
Ah ouais, ça c'est fou quand même, l'histoire de
Mais tout le monde, on est en Allemagne, c'est-à-dire que là, en ce moment, tout le monde sort du bois, tout le monde règle ses comptes. Il y a une ancienne, la génération.
Gilbert Grès, hein, si tu veux, il est pas très loin. C'est le plus allemand des.
Voilà. Il y a que de ça. Il y a ce que moi j'appelle la génération frustrée, c'est-à-dire les anciens comme Michael Ballack, comme Stefan Effenberg, qui sont poussés par certains, par des lobbies, pour prendre de la place à la fédération. Je vous rappelle la sortie médiatique de Ballack sur la question de la virilité du football allemand et de la politique, etc.
Une sacrée sortie quand même.
Mais c'est une thématique.
Peut-être j'étais pas dans l'after, j'ai raté ça, mais j'étais étonné du peu d'écho que t'en as fait.
C'est pas moi déjà, faudrait peut-être qu'RMC m'appelle plutôt, ça serait déjà plus intéressant. Mais
je veux bien que tu fasses un dégagement de 2 minutes sur la phrase de Ballack, parce que franchement elle m'a plu.
Il est bon, pour que l'émission soit intéressante, faut l'appeler, mais tu as raison, on t'appelle.
Je suis désolé, Gilbert, moi depuis que l'Allemagne a pas été éliminée, vous m'avez pas appelé, voilà,
profites-en Polo, moi j'ai envie
de t'entendre. Je dis ça, vous avez la génération 2014 emmenée par Philippe Lahm et Sami Khedira qui veut prendre le pouvoir. D'ailleurs, Philippe Lahm, vous savez qu'il est, président de l'organisation de l'Euro 2024, et on lui prête de vouloir prendre la présidence de la fédération allemande après l'Euro 2024. Donc vous avez en fait que de la politique, et vous avez des personnes qui poussent différents noms. Vous avez peut-être entendu le cas de Freddy Bobic, qui est le favori. Lui, il a été très surpris que son nom sorte comme par hasard. Donc l'actuel manager du Hertha Berlin, l'ancien champion d'Europe de 1996, qui en fait serait celui qui pourrait remplacer Oliver Bierhoff. Freddy Bobic, très proche d'un certain Thomas Tuchel, comme par hasard, sauf que par qui est poussé Freddy Bobic? C'est par Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund, et vous savez qu'entre Thomas Tuchel et le Borussia Dortmund, ça s'est pas fini d'une façon extrêmement sympathique. Donc en fait, tout ça en fait est un jeu de dupes dans tous les sens. Il y a un grand gagnant qui s'appelle Hansi Flick, évidemment, parce qu'il est maintenu en poste aussi pour des raisons de timing, qui aujourd'hui, le choix de remplacer Oliver Bierhoff a été repoussé au calendrier grec parce qu'on n'a pas le temps. La fédération a décidé, comme d'habitude, de faire un audit interne pour voir ce qui va pas, etc. Mais je peux vous assurer que c'est un grand bazar aujourd'hui, parce que les révélations aussi sur ce qui s'est passé au Qatar avec la sélection sont en train de sortir.
Et c'est quoi les révélations? On entend quoi, Polo? Dis-moi.
Bon, il y a la question de la politique, évidemment, du brassard et de main devant la bouche, là, non pas, comme l'a repris RMC d'ailleurs, mon cher Gilbert, lié à ce que sorti Sportbild, ça fait une semaine qu'on le sait en Allemagne, notamment via les travaux de ARD, le média public de allemand, que, en fait, l'histoire de la main devant la bouche. Alors déjà, il n'y avait pas... on en avait parlé un peu avec Stéphane Guy, j'ai jamais connu une communauté où tout le monde était d'accord sur tout. Donc quand je vois 26 joueurs qui sont tous qui font tous la même chose en même temps, soit ça a été orchestré, soit moi il y a des gens qui ont le droit d'avoir des dissonances par rapport aux messages à envoyer dans le monde, si on doit d'ailleurs les envoyer d'ailleurs. Ça c'est un autre débat. En fait, on sait que Manuel Neuer, le capitaine de l'équipe à 36 ans, et Goretzka poussait pour mettre la main devant la bouche, vous savez, le message après le match, avant le match contre le Japon. On sait qu'à l'intérieur de cette beaucoup de joueurs, il y a eu des crises en fait, il y a eu des réunions entre différents joueurs, en gros des cadres comme Rudiger, comme Gundogan, pardon, qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est aujourd'hui, mais il y a un joueur qui aurait dit moi, je suis pas là pour faire de la politique, je suis juste là pour jouer au football. Donc il y a des dissensions très fortes à ce niveau-là, au niveau de la sélection. La fédération a couvert tout ça, évidemment. La deuxième chose qui me semble importante,
c'est pas le meilleur truc pour préparer le premier match de la Coupe du Monde, quoi.
C'est pas le meilleur truc. Et comme par hasard, comme il y a eu la défaite sur le Japon, vous avez eu juste après Kai Havertz, que je suis Bodor, mais ça encore une fois c'est spéculatif, qu'il n'était pas trop pour l'histoire du brassard et de la main devant la bouche, qui a dit bon, maintenant la politique c'est fini, on se focalise sur le football à 100%. Comme par hasard, Kai Havertz est l'un des éliminés entre guillemets sur les matchs par la suite. Donc vient se rajouter évidemment l'échec sportif. Analysé d'une façon à la fois très intéressante par certains médias allemands et d'autres complètement à la ramasse en disant il faut la tête de flic, il faut la tête de flic. Non, moi
Alors là, je te coupe justement parce que là, c'est pas RMC qui donne l'info, c'est Bild qui dit que Havertz, Gundogan et Ter Stegen accusent flic d'avoir favorisé les mecs du Bayern.
Ouais, alors Ter Stegen.
Goretzka et Neuer qu'ils estiment pas au niveau.
Alors
Ter Stegen. Ça serait bien de continuer avec lui, là.
Non, mais attends, déjà Ter Stegen qui se plaint de pas être numéro 1, c'est pas la nouvelle du siècle. Hein.
Ouais, bien sûr.
Ça fait 10 ans, donc ça c'est pas nouveau. Gundogan, alors en fait c'est une forme d'hypocrisie, parce que l'histoire, en fait en Allemagne on est en train de faire le procès du bloc Bayern, vous savez, le fait d'avoir les joueurs du Bayern qui sont en avance, en fait ce qui avait permis à Hansi Flick de gagner la Ligue des Champions 2020 au passage. Tout le monde était d'accord pour ça, et d'un seul coup tout le monde n'est pas d'accord. Enfin c'est quand même, c'est ridicule.
Quand ça d'autant foire, plus... forcément.
Bah oui, non mais c'est tout le monde ridicule, c'est-à-dire que la presse allemande est en train de changer, de tourner sa veste d'une façon assez violente, enfin un grand classique en Allemagne. Et la deuxième chose, c'est que critiquer le bloc Bayern en disant que Gundogan n'a pas sa place, etc., c'est faux. Il a même pas utilisé le bloc Bayern. Le bloc Bayern en Allemagne, c'est Goretzka-Kimmich. Et en fait, ce qui vous rappelez-vous contre le Costa Rica, il a décalé Kimmich au poste d'arrière droit en mettant Gundogan. Donc tout ça est complètement faux. Le fait, la transition entre
ils
Thomas Müller.
Ils ont gagné un match quand même, parce qu'on a un peu oublié.
Ils ont gagné.
Le Costa Rica.
Non, mais l'Allemagne, c'est beaucoup ce premier match dans ce contexte bouillant, parce que derrière, ils font un bon match contre l'Espagne, ils battent le Costa Rica, ils sortent avec 4 points. Tu vois, c'est.
Donc tu penses que c'est la main devant la bouche qui a éliminé l'Allemagne.
Je pense que la préparation de ce match a été complètement foireuse.
Qui dit le Danemark et l'Allemagne se sont trop focalisés sur autre chose que le foot.
Non, mais je pense que l'Allemagne, ça les a.
Wenger, c'est le petit télégraphiste d'Infantino aujourd'hui. Malheureusement, grand entraîneur, cet homme de grande qualité qui est devenu un petit télégraphiste avec l'âge, c'est quand même effrayant.
D'accord. Mais Stéphane, ce qui est important, je suis pas d'accord sur
que l'ambiance ne devait pas être top dans le vestiaire quand même.
Bien sûr. J'écoute avec attention ce que dit.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Philippe Lahm. Philippe Lahm, il dit qu'on soit d'accord pour la main devant la bouche, le brassard, etc. Alors on est pour, on est contre, c'est autre chose. Le problème, c'est qu'il faut le prévoir. Et très clairement, la fédération n'a pas prévu ces mouvements de joueurs, n'était pas d'accord. Le fait que différents joueurs soient pas OK pour le faire, ils soient forcés un petit peu, ils sont retour. Le problème, c'est que tout ça est arrivé, et c'est Philippe Lahm, c'est ce qu'il dit. Il dit... c'est inadmissible, on s'est fait avoir par la FIFA d'une façon extrêmement simple, parce qu'elle est jouée sur du billard avec l'histoire du brassard, parce qu'évidemment l'histoire du règlement c'est quand même quelque chose qui est important. Tu fais pas ce que tu veux avec un brassard, sinon moi je mets Sylvie Vartan à Saint-Etienne, la prochaine fois je porte un brassard. On fait ce qu'on veut avec ça.
Évidemment, t'as raison.
On fait ce qu'on veut. Moi, l'histoire du Cameroun, par exemple, il y a quelques années, vous vous rappelez l'histoire du maillot sans manches. Il était extraordinaire, ce maillot. Je le trouvais super beau. Ouais. Mais tu peux pas. T'as un règlement. Tu fais pas ce que tu veux. Donc là, ils sont arrivés comme ça. La fédération allemande, on va mettre un brassard. Tac, 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 tac. Il y a d'autres pays qui ont voulu le faire. Mais la FIFA s'est amusée avec ça, avec le règlement.
C'est vrai.
Elle est beaucoup plus aujourd'hui tolérante par rapport à des manifestations politiques sur les terrains même de la Coupe du Monde. Visiblement, là, ça la dérange plus.
Non mais je dis pas que
c'est des questions, tu le sais, enfin mieux que moi et Daniel aussi, très très complexes. Après, ce qui m'intéresse dans ce que tu racontes, c'est le lien entre ça et le sportif. Et effectivement, est-ce que c'est ça qui a eu raison de la sélection allemande qui avait déjà raté son euro et raté la Coupe du Monde d'avant?
Non mais en
il faut pas valoriser, si je peux me permettre, le parcours du Japon. Moi, je trouve qu'on puisque en fait l'entrée en jeu, je suis d'accord avec ce que vous dites, le fait d'avoir pris ses positions politiques, ça met toute la lumière sur l'Allemagne. Ils ont quand même pointé du doigt le pays hôte, donc l'entrée en compétition, elle est vraiment primordiale. Et ils se retrouvent non seulement avec peut-être des problèmes de vestiaire, etc., ce que disait le contexte, on va dire, de leur sélection, le contexte géopolitique interne, les dissensions le internes. Ouais, mais après, il y a le match aussi, et ils se retrouvent face à des Japonais
On ne peut pas à longueur de temps parler de l'importance d'une osmose dans le vestiaire, féliciter Didier Deschamps pour les choix qu'il fait à ne pas prendre un tel et un tel s'il sent que ça peut ne pas marcher, pour ne pas s'intéresser à au-delà. Là, on n'est pas en train de parler de l'hypocrisie générale et mondiale qui peut exister dans les prises de position des uns des autres. Ça, on est tous d'accord là-dessus, et notamment sur l'hypocrisie plus que mondiale et des positions de la FIFA. Juste qu'un pays qui arrive à la Coupe du Monde dans un contexte qui était en Allemagne peut-être encore plus polémique qu'en France, avec des gens dans le vestiaire qui ont des idées différentes, qui finissent par s'engueuler entre le poids du Bayern, le ceci, le cela, c'est pas le meilleur moyen de rentrer dans une compète. Ça peut être anecdotique de rater son premier match si tu peux te rattraper. Et l'Allemagne, je pense, s'est rattrapée, mais ça n'a pas suffi.
Mais en plus, ça n'a pas suffi, malheureusement.
Mot de la fin pour Stéphane.
Vas-y. Non, mais en trois secondes pour dire que ce match contre le Japon, pour l'avoir vu, c'est l'Allemagne doit mener 2-3-0. C'est-à-dire que c'est pas un match raté par les Allemands, quoi. C'est ça qui est. Et, oui. Mais après, c'est l'histoire du foot, hein. Tu te fais retourner, etc.
Ce que tu dis, Stéphane, c'est la défense de Oliver Bérov, parce que
Mais je suis très bérovien, moi, tu sais.
Mais c'est Oliver Bérov qui, parce que tu l'écoutes, et ce qu'il dit est exact. Si tu l'écoutes au niveau des statistiques, les Allemands sont champions du monde. En 2014, ils auraient dû être champions du monde en 2018 et en 2022. La réalité, c'est qu'ils sont sortis en 2018 et en 2022. Ça, c'est un autre chapitre. Ouais, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Mais si je peux t'assurer que c'est extraordinaire ce qui se passe en Allemagne.
Non, mais j'espère qu'on aura l'occasion.
Moi, j'aurais aimé juste, si Polo doit dire un dernier mot, juste son avis, parce qu'il l'a pas donné. Est-ce que Flick reste ou pas? Tu étais dans quel camp? Toi, tu penses qu'il faut un coup de balai, là-bas, comment il s'appelle, le manager, là, le poste de Bierhoff qui est très important.
Secrétaire général.
Voilà. Un autre Bierhoff avec un tout nouveau sélectionneur. Quel est ton point de vue? Quel binôme t'aurais voulu voir, finalement, toi?
À cause des 18 mois avant l'Euro 2024, je pense qu'on ne peut pas changer. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que l'Allemagne, et notamment Hansi Flick, est dans une psyché narcissique. Je développerai ce contexte dans les prochains jours.
Teasing.
Merci Polo,
on le fera.
Ciao, bonne soirée. Dans un instant, Julien Laurence, l'Angleterre au programme. Attention, Julien va faire peur à la France dans quelques minutes. Dans l'after, à tout de suite.
RMC, After Foot, Intégrale Coupe du Monde. Gilbert Brivois.
On est là jusqu'à 1h du matin, la libre antenne de l'After, tout à l'heure de minuit à 1h. Pour l'instant, on débat et on va parler d'Angleterre avec Julien Laurence qui nous rejoint. Salut Julien.
Salut Gilbert. On n'entend pas Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Pardon,
pas allumé le
micro. Il est là.
Salut Daniel, salut Stéphane.
Daniel Riolo est là.
Mais il est encore là-bas. Il n'est pas vu en studio. Je vois sa tête.
Guillaume, toujours là, supporter des Bleus. Il est là jusqu'au bout, lui.
Je suis pas comme toi, moi, je fais pas.
La moitié. T'es pas un homme de moitié, t'es un entier, toi.
Bon, alors dis-moi, tu t'as décidé de nous faire peur, en fait, ce soir.
J'ai un avis tranché, effectivement, ce soir. Parce que nos amis anglais sont très confiants. Très confiants. Vraiment très confiants.
Ah, les Français le sont également, donc ça va être un match de confiance.
J'ai écouté, effectivement, hier.
Attention, jingle, Julien Laurence. C'est con, il a tout loupé. Mais non, pas toi, Julien. Bon, bref, c'était joute Ligue des Champions. Ils sont très confiants.
Alors, il faut rappeler quand même quelque chose aux auditeurs. Ils n'ont pas remporté un match à élimination directe en Coupe du Monde contre une grosse nation depuis 1966. Donc, ils ont battu la Colombie, ils ont battu la Suède, ils ont battu des équipes en bois comme ça. Mais jamais des vraies grosses nations, jamais la France, jamais l'Argentine, jamais le Brésil, jamais l'Italie, jamais l'Allemagne. Voilà.
Après, ils ont quasiment tout le temps et très souvent perdu au péno.
Oui, mais qui perdent au pénal, qui gagnent au pénal, ils n'ont jamais battu un gros. Non, mais là, d'accord. Ils y croient, enfin, dur comme fer.
Très, très souvent, ils ont eu un destin un petit peu bizarre, les Anglais, dans les gros matchs. Il y en a plein. Moi, l'histoire de l'Angleterre dans les compétitions internationales me fascine parce qu'il y a 1000 défaites qui ont des histoires très étonnantes. Moi,
ça jouait sur un rien, d'ailleurs.
Entre les défaites au pénal, je lisais encore une interview de Campbell, c'est ce matin, Sol Campbell, qui revenait sur un match de 2004. Il y a le vrai faux but de Lampard contre l'Allemagne en 2010. Il y a tout le temps des choses bizarres avec les Anglais, vraiment. Et très souvent, ils perdent aux pénaux. Ils ont un drame avec les pénaux.
En 2010, Daniel, ils ont pris 4-1. J'étais au match, ils n'avaient pas existé.
4-2, mais enfin, il y a quand même le but qui peut changer des choses quand même. Tu vois, le ballon qui rentre quand même, tu vois, c'est pas une faute d'arbitrage. Le ballon était dedans.
Bien sûr.
Mais là, ils pensent vraiment que c'est l'occasion rêver de faire justement changer cette mauvaise dynamique, entre guillemets, en fait.
Mais quels sont leurs arguments, enfin,
Donc déjà, ils ont Kyle Walker, on l'a dit, l'athlète Kyle Walker, la puissance physique, le sprinter fou qui va arrêter Kylian.
Très bien, donc on a un athlète qui est mieux, c'est Mbappé.
Ouais, mais alors ils disent qu'il court plus vite Walker que Kylian, donc on verra.
Ah, donc vous savez, donc c'est de l'athlétisme, là, c'est le bac EPS, alors, le match de dimanche, de samedi, alors.
comme l'a dit Larquet tout à l'heure chez Roten, c'est pas une course d'athlétisme non plus, c'est pas un 100 mètres entre Kylian et Walker.
Bah oui.
Mais eux, ils sont à fond sur le fait que Walker court plus vite.
Moi, je serais eux, Julien, c'est pas sur ce plan-là que je mettrais le match, hein, parce que je suis pas sûr qu'ils vont le gagner, celui-là.
Non, peut-être pas, mais après, ils sont convaincus qu'ils marqueront plus de buts que nous, c'est-à-dire qu'à la force offensive qu'ils ont, que ce soit Kane, Saka et Foden.
Ça, déjà, comme réflexion, ça m'intéresse beaucoup plus. Et les Anglais devraient plutôt miser là-dessus. Sur un match très ouvert et sur l'idée qu'ils peuvent marquer plus de buts.
Ça ils le font. Hein.
Si j'étais Anglais, moi, c'est là-dessus que je miserais, moi. Mais bon.
Ça, ils le font. L'histoire de Walker, c'est parce que c'est le match-up entre Kylian et l'arrière-droit adverse, que ce soit Cash, Walker.
Oui, puis les Anglais adorent ça, mettre des têtes de pont, deux têtes de pont comme ça, face à face.
C'est obligé. Parce qu'ils sont obsédés par Kylian. Déjà, il y a une obsession, mais il y a une fascination aussi. Même s'ils ont un Foden, par exemple, qui lui aussi est un petit génie, peut-être pas du niveau de Kylian, peut-être un jour, mais ils sont obsédés par Kylian. Donc c'est forcément, ils t'offrent l'adversaire direct. Après, ils sont convaincus de marquer plus de buts que nous, ils sont convaincus d'avoir un meilleur banc que nous aussi. Quand tu peux faire rentrer un Marcus Rashford qui on l'avait raconté.
On peut leur concéder quand même.
On l'avait raconté l'autre soir avec Gilbert. Ils considèrent Rashford, en fait, Southgate, comme un joueur de rugby que tu ferais rentrer à l'heure de jeu pour avoir cet impact sur le match. Les autres sont fatigués. Bah voilà, lui, il entre. C'est ce que Eddie Jones lui a mis dans la tête. Donc maintenant, le Sylvain Ripoll anglais, il croit dur comme fer. Et voilà, ils ont cette dynamique collective. Ils ont cette puissance offensive, qui fait qu'ils sont sûrs de gagner contre nous.
Tu sais qu'on m'a envoyé ça sur Twitter avec ton histoire de Sylvain Ripoll anglais. Tu sais que le vrai nom de Shakira, c'est Ripoll.
C'est vrai ?
Son nom de famille, ouais. C'est dingue, hein ?
Mais quel rapport, en fait, Ripoll. Entre Shakira et Ripoll ?
Je sais pas, mais c'est marrant.
Bah, c'est marrant, voilà, c'est tout.
Ah, d'accord.
Okay. Alors, une petite
Guillaume.
En Angleterre, quand même, ouais, on a quand même.
Il t'est flippé, là, Julien ?
Bah, non, mais c'est qu'en face, on a quand même le dernier finaliste de l'Euro.
Mm-hmm. Même. Ah, t'es dans mon camp, c'est bien, t'es dans mon camp.
Faut pas l'oublier. L'histoire par rapport à Mbappé, moi, ce qui peut m'inquiéter, ça peut être plus de comment Kylian peut réagir, parce que c'est vrai qu'il a tendance, je trouve, des fois, quand on se focalise un peu trop sur lui, à partir des fois dans certaines situations où bah, il joue un peu tout seul.
Faire un peu trop.
Voilà. Ouais. Et finalement, pour moi, la clé de ce match-là, comme on se focalise beaucoup sur ce côté gauche, d'ailleurs, dont on a parlé en début d'émission, en plus avec Rabiot, bah, en fait, c'est à droite, quoi. Clairement, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer à droite, que Dembélé va être capable de nous faire, et Griezmann, pour moi. Vraiment, c'est le match clé dans le cadre.
Ah, toi, tu joues la contre-programmation. Tu dis, bah, très bien, puisqu'ils mettent tout sur Mbappé.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, voilà, c'est clairement la clé de ce match. Ça doit se jouer. Ça va être le rôle de Griezmann. Si Griezmann continue à être au niveau de ce qu'il nous a fait et encore plus, et puis que ça puisse passer beaucoup plus par ce côté droit et notamment par Dembélé qui va devoir régler un peu mieux.
Alors, moi, je réponds différemment. Julien, est-ce qu'ils ne tournent pas dans leur travers habituel? C'est l'espèce de suffisance anglaise. Genre, le foot, c'est nous, donc...
Alors, ils disent que non, puisqu'ils n'ont jamais battu un gros dans ces compétitions-là. Donc, tu vois, ils disent, non, justement, on fait profil bas, mais on se dit que c'est maintenant que ça va arriver, que cette équipe de France, elle est prenable, même avec Kylian, qu'on a pour une fois, tout est réuni, parce que défensivement, ils sont solides, c'est vrai, mais ils n'ont pas non plus été testés, mais ils ont été solides, parce qu'en plus, on a cette force offensive qui est vraie, il faut le reconnaître, à part le Brésil, il n'y a peut-être aucune autre équipe qui a 6 joueurs offensifs de ce talent-là, et aussi complémentaires les uns des autres, qu'ils ont Bellingham au milieu qui est leur Mbappé, même si c'est moins flambant parce que c'est un milieu de terrain, mais à 19 ans il fait quand même des choses extraordinaires, donc c'est vrai que, et n'oublions pas une dernière chose sur les coups de pied arrêtés, très très important. Ils sont excellents sur coup de pied arrêté offensif, donc les défensifs chez nous. On a encaissé un but contre le Danemark, par exemple, comme ça. On est très vulnérable sur les coups de pied arrêtés.
C'est Rabiot tout à l'heure.
Et eux, ils travaillent beaucoup déjà, et surtout, ils ont depuis maintenant, depuis qu'ils préparent cette rencontre-là, bien vu les faiblesses et les absences françaises sur à ce niveau-là.
Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec Julien?
Julien, il relaie, je sais pas si c'est son avis à lui, il relaie un peu l'ambiance anglaise. Moi, je crois que c'est une équipe sous-estimée. Voilà. Il y avait, pour moi, il y avait deux équipes sous-estimées dans ce tournoi depuis le début. C'était le Portugal et l'Angleterre. Bon, le Portugal, avec le succès éclatant d'hier, je pense qu'il y a plus maintenant personne qui les sous-estime. Et il y a ces Anglais, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas spectaculaire, qui paye pas de mine, mais qui a quand même été, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, finaliste de l'Euro, qui là, pour l'instant, rend une copie quasi parfaite. Et alors, Julien insistait dans son propos sur la force offensive des Anglais, mais c'est une équipe qui ne prend pas de but. J'arrête pas de le dire à chacune de mes interventions, mais c'est une équipe qui ne prend pas de but. Et pourtant, voilà, on regarde les défenseurs anglais sur le papier, on se dit pas que c'est des monstres, mais il y a une organisation, il y a un équilibre dans cette équipe, peut-être qui nuit à sa spectacularité, mais qui la rend redoutable. Et je sais pas, parce que vraiment, je n'ai aucune idée de ce que va donner ce match. Je suis passionné, j'ai tellement envie d'être à samedi 20h parce que je pense que tout peut arriver. C'est un vrai 50-50 pour moi.
Julien, reste avec nous parce qu'on va parler des numéros 9 dans quelques instants. Daniel va développer un avis là-dessus. Et puis on aura Nasser Larguet également qui sera là, ancien DTN du Maroc, et qui pourra donc nous expliquer peut-être pourquoi le Maroc aujourd'hui se retrouve en quart de finale de la Coupe du Monde. Tout ça sans oublier un autre pays à problème aujourd'hui, l'Espagne, avec Luis Enrique, qui lui magique hier soir a dit bah, « moi je suis content en fait ». Les joueurs ont fait exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Voilà. Donc, en Espagne, ça passe moyen. Fred Armel sera avec nous tout à l'heure. Allez, à tout de suite. On est encore ensemble pendant une heure et ensuite, ce sera la libre antenne de l'After.
RMC, After Foot.
Intégrale Coupe du Monde.